O llámate amor viva. Eternamente eres en mi alma y en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres. Rompe la ceiba de este dulce encuentro. Oh.
già vediamo arriva. Già vediamo arriva. Già vediamo arriva. O già vediamo arriva.
Si viene de nuevo.
Alors, nous sommes à pied d'œuvre pour l'étude de la seconde strophe. Pour commencer cette étude, j'aimerais vous signaler dans la biographie deux titres qui me paraissent intéressants pour l'ensemble de la vie flamme, mais aussi spécialement pour cette strophe et aussi la strophe 3. Alors vous avez, je ne l'ai pas trouvé en français, mais il est sorti à la bibliothèque et je crois savoir qui l'a. Je ne dirai rien. Donc, vous avez de Federico Ruiz, Mystico y Maestro, San Juan de la Cruz. Donc, Federico Ruiz, maître et mystique. Donc, c'est une bonne synthèse théologique. Et vous avez, entre autres, le chapitre final, le chapitre 20, qui concerne plus particulièrement la vie flamme. C'est vraiment une très bonne approche, vraiment théologique, quoi, Federico Ruiz. Voilà. C'est un homme malade maintenant, mais vraiment ce qu'il a produit sur Saint Jean de la Croix était tout à fait intéressant. Et puis alors, il y a une version anglaise et une version espagnole. C'est El Impacto de Dios, The Impact of God, de Jan Matthäus, que j'ai connu au Centre Thérésien d'Avila, et qui est sur l'ensemble de l'œuvre de Saint Jean de la Croix, mais la plupart du temps concentré sur la vie flamme. Et ce que nous avons vu avec le centre de l'âme, etc., c'est tout à fait dans cet axe-là. Donc vous l'avez ici, et en anglais, et en espagnol. Que je sache, ça n'a pas été traduit en français, car c'est l'anglais et l'espagnol, les deux langues universelles actuellement. Et le chinois, pardon. Voilà, alors je vous recommande ces deux titres qui sont tout à fait intéressants. Production moderne, voilà. Bien. Alors, nous allons prendre le texte de la vie flamme B pour qu'il n'y ait pas d'équivoque entre nous. Voilà. Vous avez maintenant le plan, tout. Je me demande si il en manque pas un, non? Tout le monde a le plan d'étude? Il en manque un? Non, mais je ne sais pas comment j'ai fait mes comptes. Je peux passer ça, tant pis. Il est antérieur, mais ça ne fait rien. Voilà. Nous avons donc trois points d'attention pour l'étude du commentaire de la seconde strophe. D'abord, une entrée dans la théologie trinitaire et la théologie des appropriations. Nous allons voir un peu ce que c'est. Donc, ça va certainement demander un peu d'attention. Ensuite, nous avons cette mission de l'Esprit-Saint, envoyée à l'âme comme feu consumant, guérissant et transformant, avec quelques très beaux passages. Notamment le retour à l'événement de la Pentecôte, interprété par Saint Jean de la Croix dans la tradition de l'Église, avec le texte du bréviaire de Saint Grégoire, tout à fait intéressant. Ensuite, un point sur lequel je ne pense pas trop m'attarder, c'est la grâce charismatique de la transverbération. Voilà. Et puis, bon, retour à la main du Père et à la touche du Fils, bon, d'accord. Ensuite, un point que nous avons déjà abordé, mais qui revient. L'Esprit-Saint est l'histoire des personnes, donc présent de joie, avenir de gloire, passé de purification. Vous voyez, on revient à ça. Donc ça, ça vaut la peine de le retravailler, surtout à cause de la finale, car il s'agit de notre filiation divine et de notre identification au Christ. Donc voilà, en gros, ce qui nous attend. Vous voyez aussi que j'ai mis là, dans les indications, les pages du seuil pour ceux et celles qui en ont besoin. Voilà. Bon. Alors, la première strophe se concentrait sur la vie flamme de l'Esprit-Saint, l'Esprit de l'Épouse, sur son œuvre, passée, présente, future, ou anticipée, au centre le plus profond de l'âme, sur le même ton de louange, dans un même magnificat, qui est tout aussi ponctué d'exclamations, regardez les vers. La seconde strophe va considérer, exposer l'œuvre commune des trois personnes de la Trinité. La Trinité est une et indivisible. Et si vous vous souvenez, Jean de la Croix l'a annoncé dans le prologue, en reprenant le verset 23 du chapitre 14 de Saint Jean, Jean 14, 23. Celui qui m'aime, mon Père viendra à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Et Jean de la Croix avait mentionné la personne de l'Esprit. Donc, ce qu'il avait énoncé au prologue, paragraphe 2 du prologue, page 908, au seuil, eh bien là, il le reprend, il le prolonge. Cette affirmation du Seigneur en Jean 14, 23, en celui qui l'aime, viendrait le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et en lui ferait leur demeure, ce qui se ferait en le faisant vivre et demeurer dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on avait dit cette habitation ou inhabitation mutuelle. Dieu en nous, nous en Dieu. C'est l'œuvre de la charité, participation à cet amour qu'est Dieu. Et donc, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Mutua inesio, dit saint Thomas d'Aquin. Donc voilà, cette demeure, cette inhabitation mutuelle. C'est donc la Trinité tout entière qui opère en l'âme cette œuvre divine d'union, d'inhabitation. Alors nous allons lire le début, c'est très bien signifié. Vous allez voir que le saint mentionne la Trinité et juste à la suite les noms personnels du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je crois que ça nous fait comprendre quelque chose d'assez important, à la fois pour la vie spirituelle et pour la théologie. Si l'Esprit-Saint nous est envoyé, et si Jésus nous est donné, c'est pour nous aspirer dans la Trinité, qui est le mystère source, qui est le mystère fin, terme de notre vie. Une personne nous est envoyée, donnée, pour que nous remontions vers notre principe. Donc ça, il faut que ce soit assez clair. Et aussi, lorsque nous abordons donc cette pneumatologie de Jean de la Croix, pas dans l'Esprit-Saint par le Christ, nous allons au Père. Ou par l'Esprit-Saint dans le Christ, comme vous voulez, c'est pas grave. Nous remontons au Père, qui est à la source de notre vie et au terme de notre itinéraire dans l'histoire, quoi. Donc ça, c'est assez important parce que on pourra avoir un petit peu tendance, et quand on va voir d'un peu plus près la théologie des appropriations ou de l'appropriation, il y a toujours un petit peu le risque de disloquer la Trinité d'une part. Donc il faut toujours corriger par le principe de l'unité divine, ça c'est sûr. Et puis oui, ou bien de prendre une personne sans prendre les autres, c'est-à-dire de disloquer la Trinité. Donc le trithéisme est un risque constant. Je me souviens que le Père Lethel nous disait à Notre-Dame de Vie, il y a un grand risque de trithéisme. Tout le monde était là et se disait oui, parce que tout ce que vous dites sur l'Esprit-Saint, tout ce que vous pouvez dire sur Jésus, mais voilà, n'oubliez pas que c'est Jésus, le Fils unique du Père, et que c'est l'Esprit-Saint qui procède du Père et du Fils, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, bon, je me souviens, c'était assez amusant, il essayait un petit peu de dramatiser la chose, mais c'est un petit peu le risque, c'est vrai, puisque l'Esprit-Saint nous est envoyé, de ne pas de ne pas voir ou croire ou oui, accueillir la Trinité tout entière. Hein. C'est l'équilibre de la foi ecclésiale que symbolise Jean de la Croix ici. L'Esprit Saint, l'impact de l'Esprit Saint au centre de l'âme, et tout de suite, on est inspiré dans la Trinité. Et cela va être exprimé de manière symbolique, et c'est, j'allais dire, la grande force de la théologie trinitaire de Jean de la Croix, hein, avec, pour bien montrer cette indivisibilité des personnes divines et cette indivision de leur action, toujours une action commune, hein, une personne n'agit jamais seule, leur action est toujours indivisible, elles agissent inséparablement, eh bien, il va prendre ce symbole, donc, de la main du Père, la main, là-bas, la touche, qui est le verbe, qui touche, la main qui touche, forcément, c'est le toucher, le sens le plus concret, d'ailleurs, le toucher, parmi nos sens corporels, et puis le cauter, donc la brûlure, de l'Esprit Saint. Donc, pour bien montrer cette indivision et cette indivisibilité. Et le symbole est très parlant à ce niveau-là. On voit que c'est une même action. C'est une seule action. Vous percevez cela? Ça me paraît assez important. Nous croyons, c'est le Concile de Constantinople. Je vous invite à faire une petite relecture de vos conciles œcuméniques dans le Denzinger. Le Concile œcuménique de Constantinople II en 553. Constantinople II. C'est le Denzinger 42. Donc c'est tout au début. Vous n'avez pas un grand effort à faire pour le feuilleter. Les œuvres de la Trinité sont indivisibles, comme est indivisible la nature de la Trinité. Les trois personnes divines sont inséparables, de même elles agissent inséparablement. Voilà, c'est simple. Il y a un problème ?
421, il y en a dans le texte.
Que je vous ai mis ? Ah oui, donc là, je vous trouve. Attendez. Bon, ben vous irez voir. Ah, finalement, j'ai été assez présomptueux. Bon, ça ne fait rien. Passons, vous irez voir. Vous chercherez. Hein ? Bon. 421, ça me paraît beaucoup, mais enfin. Voilà. Donc, il y a ces écueils de la foi pour nous, de la foi trinitaire. Ou d'une part, confondre les personnes divines, c'est ce qu'on appelait comment ? Confondre les personnes divines. On appelle ça comment en théologie trinitaire ? Messieurs, qui êtes au baccalauréat et en maîtrise, là je vous prends en défaut. Pierre de Vérac.
Non, mais le mot ne me revient pas, mais c'est un mot qui veut dire masque, je crois, non, c'est pas ça. Enfin. Quand c'est pour on pense que Dieu, finalement, c'est le modalisme.
Voilà. Ah, le modalisme, nous y sommes, voilà. Donc Dieu a trois visages, ou trois, oui, prosopones, enfin trois figures. Hein, un seul Dieu, pour maintenir un seul Dieu, mais on ne maintient pas la distinction des personnes. C'est ce qu'on appelle le modalisme. Bon. Donc c'est un premier écueil, et puis l'autre, c'est lequel ? Ah oui, le trithéisme, c'est sûr. Ça va ? Bon. Voilà. Alors, donc, on a... donc, c'est le fait de distinguer tellement qu'on divise. C'est le fait de confondre, de tellement unifier qu'on confond, ou c'est le fait de distinguer tellement qu'on divise. C'est ça, les deux écueils de la théologie trinitaire. Hein, c'est ou coaguler la Trinité au point qu'il n'y a plus de Trinité, ou bien diviser. Hein, voilà. Alors, voilà, la main, le cauter, la touche, en substance, sont une même chose. Et bien qu'elle nomme les trois à cause des propriétés des effets, elle parle d'un seul en disant... Alors, on va le lire. Parce qu'on va avoir à la fois la théologie trinitaire, puis après, la question de l'appropriation. Donc ça, c'est pas très difficile, mais c'est pas tout à fait facile non plus. Hein. Bon. Alors, lisons ce paragraphe 1, s'il vous plaît.
Vous voulez venir,
je vais lire
l'espoir.
Ah, non.
Tu vas,
Aurélien ?
J'ai un
espoir. Ah, allez, voilà, merci.
L'âme expose dans cette strophe comment ce sont les trois personnes de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui opère en elle cette œuvre divine de l'union. La main, le cautère et la touche dont elle nous parle sont en substance une même chose.
Une substance divine, d'accord ?
Bon.
Si elle leur donne ces noms, c'est pour marquer les effets propres à l'action de chacune des personnes.
Ah ! Peut-il y avoir ? Il s'agit d'une action commune. Mais il y a des effets propres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avançons. Avançons, on va voir.
Le cautère représente l'Esprit Saint, la main le Père, la touche le Fils. L'âme exalte donc ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et elle décrit trois grandes faveurs dont ils l'ont gratifiée, faveurs qui ont changé sa mort en vie et opéré sa transformation. La première de ces faveurs est l'appelée toute délicieuse. Elle l'attribue à l'Esprit Saint, à qui elle donne le nom de cautère suave. La seconde est le goût d'éternité. Elle l'attribue au Fils de Dieu, qu'elle nomme touche légère. La troisième est la transformation, don par lequel l'âme se déclare très avantageusement rémunérée. Elle attribue cette faveur au Père, à qui elle donne le nom de douce main. Après avoir nommé sous ces métaphores les trois personnes, à cause des effets propres à l'action de chacune, elle s'adresse à une seule en disant « Tu me donnes la mort, en vie elle est changée. » Comme les trois personnes agissent de concert, elle attribue toutes les opérations à chacune et à toutes à la fois. Voici le premier vers, au cautère vraiment suave.
Personne. Alors, bien, nous allons regarder ça de près. Nous avons donc, par le biais du symbolisme, le cautère, la touche légère, délicate, et la main. Bien. Une œuvre commune, des trois personnes, inséparables, qui constitue l'unique substance divine. D'accord. Bien. Nous avons des effets, on est d'accord, des grâces ou des biens, c'est la même chose. Que l'on, quel est le verbe ?
Attribue.
Que l'on attribue. Voilà le mot-clé. Et nous touchons là. À ce qu'on appelle l'appropriation, la théologie de l'appropriation. On va essayer de comprendre ça. Vous avez un mot qui va avec, c'est le mot dans le texte.
Attends, mais j'espère.
Propriété. Voilà, propriété. Hein? Vous l'avez, sa propriété en français ? Je ne me rappelle plus dans ce que vous avez lu. Non ? Oui, si, si. À la fin. Hein? Elle nomme les trois à cause des propriétés des effets. Est-ce que vous avez ça ? Hein? Donc, vous avez mon propriété.
C'est une opération aussi.
Des opérations. Opération.
Ah, vous avez opération.
Opération.
Oui. Opération. Oui. Milieu, oui. Je suis ici. Voyons le schéma. Qu'est-ce que tu as ? Parce que j'ai retrouvé une photocopie de ça. Bien que l'âme énumère ici les trois personnes à cause de l'action propre de chacune, elle s'adresse à une seule. Donc ils ont mis l'action propre. Hein. Ils ont un peu tourné la difficulté, mais c'est plus juste.
Hein.
Oui, propriété. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout en tenant le fait que l'œuvre commune de la Trinité ne peut pas être disloquée, les personnes divines ne peuvent pas être séparées, c'est toujours une œuvre commune. Cependant, les effets, les biens, les grâces, les bienfaits, les dons produits, nous allons pouvoir, et la théologie trinitaire le permet, les approprier ou les attribuer à l'une ou l'autre personne. Pourquoi ? Alors, il n'a pas encore dit, on va essayer de le voir un peu après. Parce que tel ou tel effet de l'œuvre commune des trois personnes reflète, exprime davantage la propriété d'une des personnes dans la Trinité. On va essayer de voir ça. Bon. C'est ça la théologie de l'appropriation. Alors, Saint Jean de la Croix va essayer de nous l'expliquer. Pourquoi il a mis le cautère? Parce que c'est le cautère qui entre en contact avec la plaie, qui brûle, etc. Et pourquoi c'est l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint brûle, c'est le feu d'amour. Hein? Et puis, il va nous expliquer et pourquoi il est au bout de la pince, si vous voulez. Eh bien, parce que les œuvres de Dieu ad extra, hein, dans la création, hein, et dans le cœur humain, c'est lui qui les mène à la perfection, qui les mène jusqu'au bout. Il achemine l'œuvre de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement. C'est lui qui sanctifie. Donc, l'œuvre d'amour, l'œuvre de sanctification, on l'attribue à l'Esprit Saint. On l'attribue. Ça ne veut pas dire que le Père et le Fils ne sanctifient pas. Hein. Ça veut dire que nous l'attribuons à l'Esprit Saint parce que cette œuvre, cet effet, reflète l'originalité personnelle de l'Esprit, hein, telle que nous l'apercevons en contemplant le mystère trinitaire. Évidemment, ce sont des propriétés qui sont communes, mais ça reflète plus spécialement. Aussi, nous pouvons attribuer, sans faire de faute en théologie trinitaire, les œuvres d'amour à l'Esprit Saint. D'accord ? Qui mènent à leur perfection les œuvres d'amour de Dieu. Ça va ? La main, elle renvoie au Père, parce que, en effet, c'est la main qui est à l'origine de cette touche. Comme le Père est à l'origine de la nature divine qu'il communique au Fils de toute éternité qu'il engendre. Hein? Donc, voilà. Hein? Et le bras aussi, alors au niveau biblique, évidemment ça fait penser à tout ce symbolisme biblique du bras. Le bras, c'est la puissance de Dieu dans la Bible. Hein? Donc, Saint Jean de la Croix va nous faire comprendre que, oui, ce bras évoque la puissance divine, la puissance du Père. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Quand je dis je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, est-ce que ça veut dire que le Fils n'est pas Tout-Puissant et que l'Esprit n'est pas Tout-Puissant? Non. Mais il est Tout-Puissant, il est à l'origine. Et c'est lui qui porte et contient tout. Et donc, je peux lui attribuer cette toute-puissance. Dans les effets, je peux les attribuer à cette toute-puissance originelle du Père. Vous voyez, c'est ça le... la théologie de l'appropriation. Hein? Cette appropriation d'une œuvre à telle ou telle personne, ou à telle personne plutôt qu'à une autre, ce n'est pas une négation de l'unité substantielle de la Trinité, mais c'est une perception, une connaissance éprouvée, une expérience d'une sorte de rapport, hein, entre les dimensions de l'œuvre divine que nous voyons dans l'âme et puis les propriétés des personnes de la Trinité qui se manifestent à travers cela. Hein? Alors, saint Thomas dira, c'est à la question 39 de la prima, je pense que je vous l'ai mis en référence. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Donc, je vois bien que je l'écrive. Hein? Article 7, la manifestation des personnes divines, lorsqu'elles se donnent à connaître à l'âme dans leurs attributs essentiels, s'appelle appropriation. Manifestation des personnes divines, lorsqu'elles se donnent à connaître à l'âme dans leurs attributs essentiels, s'appelle appropriation. Alors, saint Thomas développe dans cette question-là. Comment le Père est principe de la divinité tout entière, il est cause créatrice de l'universalité des êtres, le Fils est cause exemplaire, c'est par lui, et l'Esprit Saint est cause finale, c'est pour lui, car il achève dans l'amour les opérations concernant le salut. Ça va ? Bon. Donc, on peut tenir à la fois que la Trinité est indislocable, inséparable, que son action est toujours commune, hein, que les personnes sont inséparables et que leur action est inséparable. Il faut dire que son action, d'ailleurs, c'est ce que dit saint Jean de la Croix. Il met ça au singulier à la fin, vous avez remarqué ? Hein, c'est très net. Envie, tu l'as changé, car les trois agissent en un seul, hein, et c'est pourquoi elle attribue tout à un et tout à tous. D'accord, on a l'impression de devenir fou en lisant ça, mais c'est tout à fait juste, c'est tout à fait rigoureux. Hein. Donc, chaque personne divine opère l'œuvre commune aussi, on peut le dire, et la théologie de l'Église nous le permet. Chaque personne divine opère l'œuvre commune selon sa propriété personnelle. Nous le voyons dans les missions divines de l'incarnation, du Fils et du don de l'Esprit à la Pentecôte. Alors vous pourrez lire, j'espère que j'avais mis, le KEC 259, le catéchisme de l'Église catholique. C'est très bien expliqué, on voit que c'est un Schoenborn derrière. À propos de la manifestation de l'originalité des personnes dans la Trinité, on évoque l'œuvre à la fois commune et personnelle. Toute l'économie divine fait connaître. Toute l'économie divine. L'économie, c'est ce que fait Dieu. Ad extra. Toute l'économie divine fait connaître et la propriété des personnes divines et leur unique nature. Aussi, la vie chrétienne est-elle communion avec chacune des personnes divines sans aucunement les séparer. C'est ce que saint Jean de la Croix nous décrit là. La vie chrétienne est-elle communion avec chacune des personnes divines sans aucunement les séparer. C'est possible. Ça se tient. Est-ce que ça va? C'est un peu mystérieux ou... Bon, j'espère que vous êtes d'accord, sinon, c'est mystérieux, mais vous voyez qu'il faut tenir les deux et qu'on peut le tenir dans la théologie de l'Église. Et l'indivisibilité de la Trinité et l'unité de l'action des trois personnes et l'appropriation, l'attribution à l'une personne des faits qui sont communs aux trois, mais qui reflètent l'originalité personnelle de cette personne. Ça va ? Donc voilà où se situe Jean de la Croix. Vous avouerez que quand même, il s'en tire plutôt bien. Et plutôt mieux que nous quand même, hein, mais bon. Et bien qu'ici elle nomme les trois à cause des propriétés des effets, elle ne parle qu'avec un seul en disant « Tu as changé la mort en vie, hein, c'est un « tu hein, », car toutes agissent en un, et ainsi elle attribue tout à un et tout à tous. » Ça va ? Il faut pouvoir le dire quand même. Hein, pouvoir le dire. Bon, est-ce que ça peut passer, cette affaire-là ? C'est dans la foi, mais vous voyez que ce n'est pas la foi sans la raison, s'il vous plaît. Hein, vous voyez comment le catéchisme en rend compte, comment saint Thomas en rend compte, comment nous sommes dans la tradition vivante de l'Église avec cela. Hein. Mais il est certain que saint Jean de la Croix, par le biais de la théologie symbolique, là, ça nous permet d'explorer assez loin, ça c'est clair. La théologie mystique, elle recourt au symbole, justement, comme l'expression la moins inadéquate hein, de l'expérience. Oui ? Bien. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. Hein. Tout ça, c'était pour un paragraphe. Hein. Paragraphe 1, ça va ? Bien.
Pardon, dans la traduction, c'est la dernière phrase. Il attribue à la personne ou quelque chose comme ça, alors que c'est à l'un. Obran en uno.
Oui. De toute façon, toutes les traductions sont mauvaises. C'est un principe. Donc, le mieux, c'est de lire en espagnol. Si on ne peut pas, on prend la moindre des traductions, la moins mauvaise, mais on fait ce qu'on peut.
Et ça donne quoi en espagnol ?
Lis ta phrase en français, si tu veux. C'est la fin que tu voulais dire ?
Non, c'est...
Parce que moi, c'était comme les trois personnes agissent de concert.
Attends.
À la fin.
Ah oui, tu as changé la mort en vie, c'est ça ? Quand oui, tu reprends le verbe, oui ?
La dernière phrase.
Oui.
Comme les trois personnes agissent de concert.
Oui, bon, de concert, évidemment, c'est la traduction du début du XXe siècle. Elles agissent en un, hein, littéralement.
Elle attribue toutes les opérations à chacune.
Ah non, ça c'est faux.
Et à toutes à la fois. Ah,
non, alors à chacune, voilà. C'est faux. Ouais. Non, elle, ainsi, comme elles agissent toutes en un, elle attribue tout à un, c'est-à-dire à un seul Dieu, hein, et toutes à tous, à toutes les personnes distinctes. Oui, là je sens qu'ils ont un peu... Car les trois personnes opèrent toutes choses ensemble, et ainsi tout ce qui est attribué à l'une est attribué à toutes. Ben non. Non, c'est pas juste non plus. Faut avouer que c'est pas très facile. Hein.
C'est sûr.
C'est pas très facile. Hein. Voilà. Bon, faut avouer aussi que ces gens, ils traduisent sur 1000 pages. Hein. Nous regardons 3 lignes. Hein. C'est ça, hein. C'est pas évident. Hein. Mais bon, ben voilà. Oui, on est d'accord. C'est pas tout à fait juste. Bien. Alors, passons au point 2, s'il vous plaît. On va pas y ergoter, quand même. Hein. Vous voyez que nous commençons par le Coter, nous commençons par l'Esprit Saint. Il tient la première place, non pas qu'il soit le premier dans la Trinité, il est troisième, la troisième personne. Bon, vous vous rappelez bien sûr que dans la Trinité, il y a trois personnes, qu'il y a un ordre, la première personne est le Père, la seconde est le Fils, et la troisième est l'Esprit Saint. Nous disons un ordre, mais nous ne disons pas subordination. C'est assez important. C'est très difficile à imaginer dans nos perceptions humaines. Quand nous voyons ordre et hiérarchie, pour nous, il y a toujours supérieur et inférieur. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a ordre, mais il n'y a pas subordination. Hein. Ça fait partie de la théologie de base de la Trinité. Hein. Mais c'est vrai que c'est dans l'Esprit, par le Fils, que nous remontons au Père. C'est la grande doxologie des Pères grecs hein, que nous retrouvons là. Hein. Voilà. Et c'est parce que l'Esprit Saint diffuse en nous l'amour, la charité, hein, à cause de la perfection de la charité que nous remontons. Hein. Donc par la charité, l'âme va être assimilée au Saint-Esprit, elle va participer à cette procession de l'Esprit. Bon, ça nous allons le revoir. Le premier élément que nous découvrons, l'Esprit Saint est envoyé à l'âme comme feu consumant, guérissant et transformant. Nous avons là quelques beaux passages, j'allais dire même très pratiques sur le plan de la pastorale. Ce sont les paragraphes 2 à 14. Bon, quand je dis envoyer, évidemment, en rigueur de terme, il faut dire que c'est une mission de l'Esprit Saint, une mission invisible, temporelle, du Saint-Esprit à l'âme, comme dit saint Thomas d'Aquin, en raison de la grâce sanctifiante. L'Esprit Saint nous est envoyé en raison de la grâce et de la charité. Je vous ai donné, je pense, la référence. Non. Si je déraille, non. Non. Alors, évidemment, il faut retourner à cette question clé de la somme théologique. Hein. Prima, question 43, hein, sur les missions divines. Et là, c'est l'article 5. Une personne est envoyée à quelqu'un par la grâce invisible, en raison de la grâce sanctifiante. Qu'est-ce que ça veut dire être envoyé? Ah, vous avez une idée? Alors, saint Thomas est un petit peu plus précis. Ça veut dire, pour une personne divine, être envoyé à quelqu'un, cela signifie un nouveau mode d'habitation dans cette personne. L'Esprit Saint nous est envoyé, c'est-à-dire qu'il habite de nouveau plus pleinement en nous. Et s'il est envoyé, ça veut dire qu'il est envoyé par quelqu'un. Ça veut dire qu'il tient son origine d'un autre, c'est ça. Ça veut dire beaucoup de choses, être envoyé. Donc l'Esprit Saint est envoyé. Saint Thomas dira à la question 5, article 2, que c'est en raison de la charité que l'on considère une mission du Saint-Esprit, donc des étapes, des seuils de la charité. Ces seuils de la charité nous montrent que l'Esprit-Saint nous est envoyé, il nous est donné. C'est Romains 5, 5, hein, un peu plus simple. L'amour est répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous est donné. Si l'Esprit Saint nous est donné, il nous est envoyé, il habite en nous de manière nouvelle et plus pleine, il diffuse en nous la charité, et c'est aussi en raison de la charité qu'il nous est envoyé. Ça se tient, c'est corrélatif hein, pour saint Thomas. Hein. À l'article 3 de la question 43, saint Thomas dit « On dit qu'une personne divine est envoyée en tant qu'elle existe en quelqu'un d'une manière nouvelle. Elle est donnée en tant qu'elle est possédée par quelqu'un. » Elle est envoyée en tant qu'elle existe d'une manière nouvelle, elle est donnée en tant qu'elle est possédée par quelqu'un. Et saint Jean de la Croix va développer ça, et dans le Cantique et dans la Vie Flamme, parce que nous possédons l'Esprit. D'accord ? L'Esprit nous est donné, ça veut dire que nous le possédons. Il nous est envoyé, ça veut dire qu'il existe en nous de manière nouvelle, plus pleine. Ce n'est pas une nouveauté absolue. Ça va ? Je pense des points qui peuvent éclairer notre réflexion. Donc il ajoute que c'est en raison de la grâce sanctifiante qu'il y a une mission de la personne divine. Il appelle ça une procession temporelle de la personne divine. Par ce mode, Dieu habite dans la personne humaine comme dans son temple, et comme l'aimé dans l'aimant, comme le connu dans le connaissant. Voilà. Ça va tout ça ? Bon, je dis tout ça parce que je pense que ça peut éclairer un petit peu ce que développe saint Jean de la Croix, même s'il ne faut pas plaquer saint Thomas sur saint Jean de la Croix. Je crois que ça, c'est une erreur d'interprétation, mais c'est plutôt des clés. On voit que saint Jean de la Croix s'inscrit dans cette grande tradition. Hein? Voilà. C'est sûr que exister pour Dieu, on va dire pour nous, c'est un petit peu compliqué, que Dieu existe en nous. Hein? Il existe comme la cause dans ses effets. Et il nous fait participer à sa bonté. Il est présent en toutes choses. C'est ce que dit saint Thomas et saint Jean de la Croix, le reprend dans le Cantique spirituel, à l'astrophe 11, par essence, par puissance et par présence. Mais il a un mode spécial d'exister dans la créature raisonnable, comme le connu dans le connaissant, comme l'aimé dans l'aimant. Ça va ? Tout ça, ça peut aller ?
Hein? C'est une relation.
Voilà, de connaissance et d'amour. Hein? Oui, bien sûr. Bien. Alors, la présence, nous y sommes avec saint Jean de la Croix, du Saint-Esprit, est expérimentée comme une brûlure suave, douce, et une blessure délicieuse. Donc, c'est les oxymores dont nous avons parlé hier. Paragraphe 2 à 7. Donc c'est l'expérience de contraire apparent, de contradiction apparente, expérience d'antinomie. Et alors, ce que saint Jean de la Croix relève dans ces lignes, vous irez voir, on ne va peut-être pas tout lire, c'est que ce feu de l'esprit, qui est un feu consumant et transformant, a une force infinie. Il embrase et transforme avec une grande force. Il peut serrer l'âme. C'est un feu intense, très dense et concentré, très ardent. C'est un feu véhément et consommant. Il pourrait consumer mille mondes. Et saint Jean de la Croix est dans l'émerveillement, car il ne consume et n'achève pas les esprits dans lesquels il brûle. Alors ça, saint Jean de la Croix est dans l'émerveillement. C'est une chose admirable, dit-il au paragraphe 3, que ce feu qui pourrait consumer mille mondes, lorsqu'il brûle dans le cœur humain, il ne détruit pas, il ne consume et n'achève pas, au contraire, il remplit de délices, il divinise en brûlant suavement. Alors, ça fascine beaucoup saint Jean de la Croix que cette non-violence de la flamme de l'esprit. Pour trouver ça au paragraphe 5, il y a une force infinie pour vous consumer. Il ne vous consume pas immensément, il vous consume en gloire. Os consuma en gloria. Donc, chose admirable pour saint Jean de la Croix. Alors, vous pourrez aller voir, je ne pense pas que vous l'ayez mis là, je vous l'ai mis là, ouais. Vous pourrez aller voir, il y a quelque chose d'un peu de cela chez saint Thomas, dans la Prima Secundae, à la question 6. article 4. Saint Thomas fait comprendre comment c'est possible que ce Dieu qui est un feu consumant, qui est brasier ardent, lorsqu'il vient en nous, il ne nous détruit pas, alors qu'il pourrait détruire tous les univers, toute la création. Alors, Saint Thomas a quelque chose qui me paraît être une clé intéressante. Il dit, plus une cause est transcendante, plus elle peut se rendre présente à son effet sans le violenter. Je trouve ça très intéressant. Alors, évidemment, c'est le langage spéculatif et aride de Saint Thomas. Saint-Jean de la Croix, c'est beaucoup plus poétique et plus parlant, mais au fond, c'est la même chose. Plus une cause est transcendante, plus elle peut se rendre présente à son effet sans le violenter. Au fond, nous, quand nous nous rendons présents les uns aux autres, il y a beaucoup de violence, parce que franchement, nous ne sommes pas transcendants. Vous voyez ça? Eh oui, nous ne sommes pas du tout transcendants et nous sommes assez opaques. Voilà, plus une cause est transcendante, plus elle peut se rendre présente à son effet sans le violenter. Voilà quelque chose d'intéressant, semble-t-il. Donc voilà cette non-violence de l'esprit. Et vous avez ce texte, alors on va le lire, ça. C'est retour, c'est le paragraphe 3, mais le deuxième... Bon, on peut lire tout le paragraphe 3, après tout, on peut s'offrir ce luxe. Voilà, paragraphe 3. Alors, qui peut y aller? Bon, ben, allons-y, dans la moins mauvaise.
C'est une chose admirable et digne d'être rapporté que ce feu de Dieu, si fortement consumant, capable de détruire, de réduire 1000 mondes en cendres plus facilement que le feu d'ici-bas, ne le fait avec une poignée d'étoupe de lin, ne consume pas complètement l'âme dans laquelle il brûle de cette manière et ne lui cause pas la moindre gêne.
Alors, je vois bien qu'il supprime des mots, ne consume pas et n'achève pas. Yakabe, oui, c'est plutôt leur technique à eux, hein, quand voilà, ils suppriment.
D'accord. Bon. Au contraire, à la mesure de cette force d'amour, ce feu divinise et comble de délices l'âme qui s'embrase et brûle suavement en lui.
Alors, à partir du mot suavement, suavemente, on va voir que ça vient de la lecture de l'événement de la Pentecôte dans le bréviaire. Le texte de Saint Grégoire qui lit l'événement de la Pentecôte, c'est ce que vous allez voir. C'est à partir de la clé suavement, en douceur.
Il en est ainsi à cause de la pureté et de la perfection de l'esprit avec lesquels il brûle dans l'Esprit Saint. C'est ce qui advint dans les actes des apôtres quand, avec une grande force, ce feu surgit pour embraser les disciples qui brûlèrent intérieurement d'un amour suave. Comme le dit Saint Grégoire.
Voilà, c'est la lecture de Saint Grégoire au bréviaire romain. Cette homélie de Saint Grégoire, je vous ai mis la référence, si je ne me trompe pas. Donc vous l'avez dans l'APL, la patrologie latine, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un texte qu'il aime, parce qu'il l'a déjà cité dans La Nuit Obscure. Dans le livre 2 de La Nuit Obscure, au chapitre 20, paragraphe 4. En reprenant l'expression « Per amorem suaviter arcerunt ». Ils brûlèrent par l'amour suavement. Lorsqu'il parle des 9 degrés d'amour, la croix, au livre de la nuit. Donc on voit que c'est un texte qu'il affectionne de Saint Grégoire comme lecture de l'événement de la Pentecôte. Bon, et aussi, oui, alors après il va mentionner le répond du bréviaire romain. Pour le cinquième jour de l'octave de Pentecôte. Le répond un des matines, donc tout est référencé. Je ne vous ai pas mis ça. Si, je vous l'ai mis, je vous ai tout mis. Donc ça va. Lisons cela.
C'est aussi ce que donne à entendre l'Église quand elle s'exprime sur le même sujet. Vint du ciel un feu qui ne brûlait pas, mais resplendissait, qui ne consumait pas, mais éclairait.
Voilà. Ignis divinus non comburens, sed illuminans. Non consumens, sed lucens.
Par ses faveurs, Dieu, ayant pour but d'exalter l'âme, ne la fatigue pas et ne l'oppresse pas non plus, mais il la dilate et la comble de délices. Il ne la noircit pas et ne la réduit pas en cendres, comme fait le feu à l'égard du charbon, mais il la rend de plus en plus claire et riche. C'est pourquoi elle l'appelle cauter suave.
Cauter, c'est une brûlure, c'est extrêmement brûlant et cruel, mais c'est un cauter suave. C'est l'adjectif fait le contrepoids, hein, pour exprimer cette expérience de l'action de l'esprit. Hein, antinomique, c'est sûr, mais c'est une brûlure positive. Voilà ce que Saint Jean de la Croix retient, qui confère la liberté d'esprit, hein, il va l'exprimer, la maîtrise, l'élévation, la grandeur. Hein. Bien. Vous n'avez pas ça, comment ça se fait, ça, hein, ça, ça, ça. J'ai fait une erreur de... Voyons. Où donc est la reine Esther? Là, je vois plus ça. Bon, ça fait rien. Si on retrouve la reine Esther, ce sera bien, paragraphe 7. Oui, c'est ça. On va retrouver la reine Esther, le paragraphe 6 et 7. Donc, on va percevoir cette chose que, et il va le dire par la suite, le but de Dieu, c'est de grandir l'âme. Donc, c'est un but éminemment positif. Et on va se trouver avec la figure typologique de la reine Esther, qui est assez fascinante pour Saint Jean de la Croix, pour exprimer la dignité de l'âme, à laquelle le roi divin tend le sceptre de sa faveur et va accueillir sa demande. Ça, c'est l'âme transformée en Dieu. C'est la reine Esther pour Jean de la Croix. Dans le Cantique, dans la Vie Flamme, c'est vraiment le type de l'âme digne, rendue digne, belle par Dieu, par le roi divin. C'est la reine Esther. Bon, on va y arriver. On a dans les paragraphes 6 et 7, et là, c'est que dans le B. On va lire B7, c'est pas dans le A, c'est vraiment un ajout. Aux plaies délicieuses, quelque chose qui, me semble-t-il, est intéressant sur le plan pastoral. Vous allez voir. Blessure délicieuse. Qu'est-ce que c'est que cette blessure délicieuse? Alors, lisons 6 et 7, oui, au moins le début de 7. Lisons 6 et puis 7. Alors, les lecteurs, si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Oui. Ah, pardon, père. Oui, allez-y, oui, paragraphe 6. Aux plaies délicieuses, hein,
vous l'avez? Aux plaies toutes délicieuses. Mm-hmm.
Non, il n'y a pas toutes. Aux plaies délicieuses. C'est tout. Là, c'est Mère Marie de Saint-Sacrement. Hein.
Après s'être adressée au cautère, l'âme s'adresse maintenant à la plaie causée par le cautère. Mm-hmm. Et comme le cautère, nous l'avons dit, était suave, la plaie doit nécessairement être conforme au cautère. La plaie due au cautère de suavité sera donc une plaie délicieuse. Le cautère étant d'amour suave, elle sera une plaie d'amour suave, une plaie suavement délicieuse.
Alors, voilà, paragraphe 7.
Pour bien comprendre la nature de cette plaie à laquelle elle s'adresse, il faut savoir que le cautère de feu matériel, là où on le pose, fait toujours une plaie. Et il a cette propriété que s'il s'imprime sur une plaie qui n'était pas causée par le feu, il le rend une plaie de feu. Il en est de même de ce cautère d'amour. Si l'âme qu'il touche porte d'autres plaies, des plaies de misère et de péché, ou bien si elle est saine, il lui laisse des plaies d'amour, et les plaies qui venaient d'une autre cause deviennent des plaies d'amour.
Ah, voilà. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez... vraiment, c'est une très belle... une très belle perception de Jean de la Croix. Hein. Donc, ce cautère qui accomplit cette plaie délicieuse, donc, transforme, hein, guérit, soigne, transforme. Hein. Ouais. Il va le dire après, aux plaies délicieuses, faites par celui qui ne sait que guérir. Celui qui ne sait que guérir. Donc ce feu élevé de l'amour qui a ce désir, hein, de rendre délicieux. Hein, car cette plaie est faite par un feu d'amour très élevé. Donc c'est à cause de la transcendance, vous voyez, hein, de ce feu. Donc, je crois que là, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que, eh bien, ce feu d'amour, c'est l'Esprit Saint qui est jailli de la rencontre du Père et du Fils. Hein. Il peut tout transformer en lui, ce qui est le propre de l'amour, ce que dira Thérèse de Lisieux, hein, par la suite. Et ça nous fait comprendre une chose, j'avais lu ça chez, je crois, le Père Sain, dans un commentaire de la Vie Flamme qu'on a à la bibliothèque. Ça m'avait frappé, ça, j'ai trouvé ça un des aspects intéressants de ce commentaire. au fond, c'est l'Esprit Saint comme personne amour, comme amour absolu, comme amour divin, qui peut faire face à toutes les situations, hein, de péché, de misère, ou bien de saine, hein, de, voilà, de santé, hein, de misère, de péché, de retrait, d'opposition. Hein, il peut faire face à ça et transformer ça. Hein. Il ajoutait ce mot, il est l'initiative universelle, il peut se proposer sans condition. Comme feu d'amour, il peut nous rejoindre dans toutes les situations de notre vie et toucher toutes les zones de notre être. Donc il y a quelque chose de ça, là, de vraiment intéressant, là, sur le plan de la psychologie spirituelle, hein, je crois. Hein. Voilà. Donc il peut tout purifier, tout guérir en l'embrasant. Il peut faire de toute plaie une plaie d'amour, même celles qui sont dues à nos misères et à nos péchés. Voilà un point, je crois, qu'on peut utiliser comme sur lequel on peut fonder un accompagnement, une pastorale, c'est sûr. Oui.
Pour Jean de la Croix, l'action de l'Esprit Saint est toujours de l'ordre de la blessure, en fait. Ça, je comprends pas. Non ?
Alors, c'est pas seulement de l'action de l'Esprit Saint. Quand vous commencez le cantique spirituel, c'est « Où t'es-tu caché, bien-aimé ? Tu m'as laissé gémissant, tu m'as blessé, le cerf m'a blessé. » Donc, l'homme se met en marche vers Dieu, il répond à Dieu qu'il l'a blessé. Donc, il y a toujours pour Jean de la Croix une blessure première de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, il y a chez lui le mot « blessure »,« herir », ici « yaga », il y a le mot « touche » aussi. Hein, il parlera des touches du verbe, dans la nuit en particulier. Donc, blessure, il y a une initiative de Dieu, c'est clair, à notre égard. Hein. Une initiative aussi qui nous laisse dans une inquiétude, qui met en nous, excusez-moi, ça va vous faire rire un peu, que j'emploie ce terme, qui creuse une sorte de béance en nous. Qui fait un creux, qui nous touche, mais qui nous laisse dans l'attente, dans l'aspiration, dans un gémissement, l'âme du cantique spirituel. Pour un don plus grand, pour être davantage comblé. Mais si vous voulez, notre marche vers Dieu, elle est d'abord une réponse, c'est ça qui fait comprendre quand il y a une blessure. On est blessé et on répond. La deuxième chose, blessure, ça veut dire qu'en effet, ça va créer un manque, une inspiration, un gémissement, un besoin, une absence. Dans le cantique spirituel, c'est très fort. Donc, dans le cantique spirituel, c'est le Verbe, et là, c'est l'Esprit Saint. Mais vous voyez que c'est commun à toutes les œuvres de Jean de la Croix. Dieu nous blesse. Alors, on peut le comprendre, on peut le prendre à mal, et dire, il fait suer, et il ne peut pas nous rencontrer sans nous blesser. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, de fait, cette initiative, ça veut dire ce gémissement, cette absence en nous, cette béance, entre guillemets. C'était très à la mode, ce terme, il y a quelques décades. Bon, le Père Létel, ça nous faisait beaucoup sourire, il disait ça. Dieu ouvre une béance en nous. Bon, très bien. Bon. Et aussi, parce que Dieu est Dieu. Et quand Dieu nous touche, il est transcendant. Et là, on retrouve le Dieu de la nuit obscure, qui touche, comme quand Dieu descendait sur le Sinaï. Donc, il y a quelques tremblements de terre, il y a quelques orages, quelques éclairs, ça frémit. Et il y a un peu de ça aussi. Il ne faut pas l'exclure chez Jean de la Croix. Vous voyez ?
Donc ce n'est pas seulement à cause de la condition du péché, c'est aussi la transcendance.
Oui, la sainteté de Dieu. C'est lié à notre péché, mais c'est lié à notre condition de créature. C'est lié à notre rien, à notre néant. C'est lié à notre misère, c'est vrai aussi. Il y a tout, hein. C'est ça le propre d'un symbole. La blessure, c'est un symbole. Hein. Donc, un symbole, justement, symboliser, ça veut dire jeter ensemble des réalités qui se retrouvent. Donc, par un symbole, on a accès à... Il y a plein de portes. Ça nous fait toucher plein de dimensions. Et c'est ça l'avantage du symbole. La théologie spéculative ou un texte rationnel, spéculatif, va vous dire une chose, puis c'est plat, 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 et c'est terminé. Un symbole, ça ouvre, c'est flexible, c'est souple, c'est riche. Et ouais, c'est l'avantage, c'est une blessure.
Il y a un symbole chirurgical aussi, on pourrait dire.
Pour le coup, là, oui.
Dans cette strophe aussi.
Oui, dans cette strophe, oui. Et n'oubliez pas, Saint Jean de la Croix, sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il était infirmier. Il a vu ça? Ben, c'est évident, à l'hôpital de Médina. C'est clair qu'il a vu, il sait ce que c'est.
On soigne le mal par le mal.
Ah ben oui, on soigne le mal. Je veux dire, c'est la médecine de l'époque. Nous, on est plutôt mort douce, médecine douce et tout ça. Hein. Bon, mais à l'époque, on n'y allait pas par quatre chemins. Et puis, c'est en Espagne. Hein. On n'y va pas par quatre chemins en Espagne. Voilà. Pas de problème. Hein. D'accord. Non, mais c'est vrai. Bon, c'est l'époque, c'est la médecine de l'époque. Vous trouvez les cautères dans les pièces de Molière. Hein. C'est pas comme en Espagne. Hein. Les pièces de Molière, il y a ça. Dans le médecin malgré lui, ou dans peut-être le malade imaginaire, il faudra regarder, mais il y a les clistères, les cautères, tout y est, toute la pharmacopée de l'époque, tout ça, ça y est.
La fin de vie de Saint-François de Sales.
Comment ?
La fin de la vie de Saint-François de Sales, on lui a imposé des cautères aux yeux partout, c'était horrible.
Terrible. Ouais, terrible. Ouais. Ah bah, c'était des soins quand même terribles, il n'y avait pas d'anesthésie. Hein. Nous, on est quand même une civilisation anesthésiée, hein. Faut pas se faire d'illusions. Ah, mais c'est vrai, pensez les anesthésies. Moi, mon propre père, quand il a été opéré à l'âge de 3-4 ans, en 1930-31, l'opération du palais, eh ben, il n'y avait pas d'anesthésie. C'était de la vraie boucherie. Il faut être opéré par des cracks au niveau manuel, des chirurgiens, mais il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, l'anesthésie, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé tout juste dans la fin des années 30. C'est des trucs absolument très pénibles au début. Hein. Il y avait des masques, et puis on absorbait des produits. Enfin, c'était des trucs horribles. Alors nous, on a fait une injection, et puis voilà, on est parti pour plusieurs heures. Tranquille, quoi. Ben, c'est vrai. Je veux dire, c'est pas tout à fait la même culture, hein, faut reconnaître. Bon, ben, je crois qu'on va faire la pause. Hein. Oui, ces messieurs sont là. Voilà, ben, oui. Il faut se remettre de tout ça, hein, quand même. Hein. Bon. Ah, merci beaucoup. Ah oui, bon, il faut que je refasse mes batteries de toute façon. Je passerai un dernier à Mexica.